Je vais interrompre nos discussions et je vous demanderai de tourner vos Bibles à Jean, chapitre 3, donc c'est page 688 sur les Bibles qu'il y a sur les tables. C'est 688, Jean, chapitre 3, à partir du verset 1. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus répondit « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Nicodème reprit la parole et lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela ? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes ? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. »
Merci Emmanuel, je vous propose de garder vos Bibles ouvertes à cette page. Et je vais prier pour nous juste avant qu'on commence. Père Céleste, merci de l'opportunité que nous avons aujourd'hui d'ouvrir ta parole et d'écouter attentivement ce que tu veux nous dire. Nous te demandons de parler à chacun d'entre nous aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, préparez-vous à rencontrer l'homme. Voyez la toute fin du chapitre 2, au verset 25. Jésus savait lui-même ce qui est dans l'homme. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème. Autrement dit, en Nicodème, on a un homme typique. Aujourd'hui, préparez-vous à rencontrer l'homme. À quoi est-ce que vous vous attendez? Et en particulier, à quelle pensée spirituelle vous attendez-vous de la part de l'homme? Au verset 23, l'homme a cru en voyant les signes miraculeux à Jérusalem. Et l'homme ne cache pas son admiration au verset 2 de notre passage. Verset 2, « Personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est avec lui. » L'homme se rend à l'évidence, Dieu est avec Jésus. En effet, Nicodème a vu marcher ce Jésus, il l'a vu marcher avec Dieu en parfaite communion. Il l'a vu s'enflammer de zèle pour Dieu. Il l'a vu se réapproprier le temple de Dieu. Et comment Jésus a-t-il décrit ce temple? Regardez bien au verset 16. Remarquablement, Jésus en a parlé comme de la maison de son Père. Pas juste la maison de Dieu, comme dans les autres évangiles, mais la maison de son Père. Or, restaurer la maison d'un Père, c'est là une attitude typique d'un fils. Ce que Nicodème a vu en Jésus, c'est un fils de Dieu. Si le miracle à Cana au début du chapitre 2 a établi Jésus comme le Messie, le Christ, il me semble que la réappropriation du temple est là pour l'établir comme un fils de Dieu, comme fils de Dieu. Or, un fils de Dieu, ça ne court pas les rues. Et depuis que les premières pages de la Genèse ont été tournées, on n'en a pas vu beaucoup, même dans la Bible. Alors certes, il y a la promesse qui a été faite par Dieu à David, en 2 Samuel 7, d'un descendant qui viendrait. Un descendant dont Dieu a dit « Je serai pour lui un père ». Et il sera pour moi un fils. Un descendant de David, justement, qui sera appelé à bâtir un temple à Dieu. Quoi que Nicodème en pense, à ce stade, Il décèle qu'en Jésus, il y a quelqu'un de remarquable, quelqu'un qui sort du lot. Un fils de Dieu. Et dans quelle position est-ce que ce verdict-là sur Jésus nous laisse, vous et moi? Eh bien, plus on contemple le zèle du Fils de Dieu, plus on mesure notre tiédeur. Il devient évident qu'entre Jésus et nous, il y a un sacré fossé. Lui a les intérêts de Dieu, son Père, à cœur, mais nous, nous n'en sommes pas là. Loin de là. Lequel d'entre nous aurait protesté avec autant de zèle dans le temple, au péril de nos vies? Notre intérêt seulement superficiel pour les choses de Dieu en dit long sur qui nous sommes. Dans notre état naturel, nous sommes des fils des hommes, pas des fils de Dieu. Jésus est fils de Dieu et Jésus est fils unique. Est-ce que du coup les versets 24 et 25 à la fin du chapitre 2 nous surprennent encore? Vous voyez que Jésus n'a pas confiance en l'homme parce qu'il connaît l'homme. Bien sûr que le fils de Dieu ne va pas se confier au fils des hommes. Et du coup, même identifier en Jésus son champion, comme le fait Nicodème ici, ça ne va pas être suffisant. Est-ce que du coup, il y a de l'espoir pour que nous retrouvions jamais une relation de communion avec Dieu? Le même type de communion dont Jésus bénéficie, évidemment. Notre passage va contenir une suggestion, un chemin à prendre pour vous et moi, et nous y reviendrons. Mais à ce stade de l'Évangile, une question peut-être pour nous, est-ce que c'est comment approcher Dieu qui doit nous intéresser? Est-ce que c'est ce que cette histoire de Nicodème est censée nous apprendre? Du chapitre 2 au chapitre 4, il me semble qu'on a une section de l'Évangile de Jean où Jean cherche à nous montrer que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Il veut qu'on y croie avec nos tripes et Jean va utiliser cette rencontre avec Nicodème pour nous montrer ce que ça implique pour Jésus d'être Fils de Dieu. L'homme Nicodème et cette rencontre qu'il fait avec Jésus est un prétexte pour nous introduire à Jésus comme fils de Dieu. Et en particulier, comme on va le voir, c'est l'ignorance de l'homme qui va faire ressortir la science de Jésus, sa connaissance, sa perspective à lui. Et c'est ce que nous allons voir sur les deux premiers points que vous trouverez sur vos feuillets. Premier point, à partir des versets 1 à 10. Les perspectives de l'homme sont tragiquement terre à terre. La discussion avec Nicodème est censée nous désespérer. Vous voyez le verset 1, on a affaire, pour commencer, à un homme d'entre les pharisiens, un chef des Juifs. Un dans lequel Jésus aurait été en droit de placer des attentes. Après tout, il dit savoir, c'est ce qu'il affirme au verset 2. Également, il a en main les saintes écritures, tout l'Ancien Testament, qui peuvent mener au salut par la foi en Jésus-Christ. Et en particulier, dans cet Ancien Testament, il a accès aux petits prophètes et aux grands prophètes. Or, voyez la chute au verset 10. Ce Nicodème, ce chef des Juifs, il n'y comprend rien. Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. Alors certes, la mécompréhension de Nicodème, ça se joue à pas grand-chose. Ça se joue à un mot près. Au verset 3, au verset 7, Jésus parle de naissance, nouvelle naissance. Et le même mot peut vouloir dire de nouveau comme il peut vouloir dire d'en haut. Nicodème comprend qu'il s'agit d'une nouvelle naissance littérale, de naître de nouveau, alors que Jésus insiste qu'il faut naître d'en haut. Je sais bien que de nos jours, certains se moquent de cette idée de nouvelle naissance, les nés de nouveau, comme si c'était une idée bizarre qu'on ne trouverait pas forcément dans la Bible. Et c'est regrettable, mais se moquer en tout cas de cette idée de nouvelle naissance, c'est témoigner qu'on n'en est pas au bénéfice. C'est reconnaître qu'on n'en bénéficie pas. Et c'est aussi ce qui se passe dans notre passage, selon moi. Si Nicodème ne comprend pas de quoi Jésus parle, c'est qu'il ne vit rien de tout ce qu'évoque Jésus. La nouvelle naissance, ça n'est pas une expérience lointaine et théorique. L'Ancien Testament anticipait certes une nouvelle naissance intense et peut-être massive, une expérience spirituelle à venir pour un très grand nombre, mais ce n'est pas pour autant que l'Esprit n'habitait pas aussi déjà chez les quelques fidèles de l'Ancien Testament. Les fidèles de l'Ancienne Alliance ont bénéficié de cette nouvelle naissance. Ils n'étaient pas très nombreux, mais Abraham était né de nouveau, David était né de nouveau, peut-être à leur insu, de sorte qu'ils n'auraient peut-être pas exprimé leur, vie spirituelle de cette manière-là avec ces termes. Mais leur foi, que tout le Nouveau Testament souligne, leur foi atteste de leur nouvelle naissance. Mais Nicodème ne fait pas partie de ces fidèles-là. Il n'est pas au bénéfice de cette initiative divine, surnaturelle, une nouvelle vie. Sinon, il comprendrait que la position de l'homme face à Dieu est une position désespérée. Et il comprendrait que le royaume de Dieu est relationnel et que ça passera par le Jésus qu'il a en face de lui. À ce stade, cette vie nouvelle, cette vie surnaturelle, elle passe à côté de Nicodème. Et lui, il pensait tout savoir. Je me demande si les présomptions de Nicodème, est-ce qu'on ne les voit pas tout autour de nous ? Nicodème, n'est-ce pas le chrétien nominal qui est là où il faut, quand il faut, uniquement quand il faut ? Nicodème, n'est-ce pas l'agnostique qui n'a que du respect pour Jésus ? C'est l'homme pompeux, respectueux, tant qu'on veut vis-à-vis de Dieu. Or, on peut choisir de flatter Jésus autant qu'on veut, mais qui croit-on impressionner ? On peut s'illusionner, mais les bonnes intuitions, les bonnes relations, les bons sous-entendus, ça ne vaut rien. Est-ce que vous connaissez ce conte d'Anderson qui s'appelle « Les habits neufs de l'empereur » ? C'est l'histoire d'un empereur qui se laisse convaincre que le vêtement qu'on est en train de lui confectionner n'est visible que par les personnes sages et intelligentes. Il ne veut pas s'avouer lui-même qu'il ne voit pas le vêtement qu'on est en train de lui confectionner. Alors il se fourvoie et il se laisse vêtir d'un vêtement complètement fictif qui n'existe pas. Donc c'est deux charlatans qui se moquent de lui. Et l'illusion est totale devant les sujets de son royaume quand il parade, parce que personne ne veut s'avouer ne rien voir, parce que ça serait reconnaître son ignorance. Jusqu'au moment où un enfant dans la foule dit l'évidence, le roi est nu. Mais la parade continue, le roi ne se laisse pas démonter pour autant. Il me semble que nos contemporains aiment à penser qu'ils ont fait le tour de la spiritualité. Nous savons, c'est quelque chose qu'on peut voir autour de nous. Il faut qu'on ait peut-être l'honnêteté de dire à nos contemporains que notre humanité est nue en ce qui concerne les grandes questions de la vie et de l'éternité. Et un enfant qui questionnerait nos contemporains sur l'éternité s'en rendrait compte. Quand on est livré à nous-mêmes, on tourne en rond. Dans ce passage, il suffit de seulement 8 versets pour que Jésus expose l'ignorance du savant le plus avancé de son époque, peut-être. Et s'il nous fallait rendre service à nos contemporains en faisant voler le religieusement correct en éclats ? On ne peut pas se permettre de laisser quiconque se berner d'illusions. On ne peut pas se permettre de laisser des aveugles mener des aveugles. Car si cette vie éternelle échappe à Nicodème, elle échappe à tout autre homme. Et ça, c'est très inquiétant. Cette discussion des versets 1 à 10, elle n'est pas seulement désespérante, elle est aussi tragique. Car livrée à elle-même, notre humanité hors de l'irruption de Jésus, elle va dans le mur. Les perspectives de l'homme sont tragiquement terre à terre. Nous autres fonctionnons en vase clos. Spirituellement, notre monde semble le renfermer. Il n'y a rien de nouveau. On n'invente rien. Et il va falloir une irruption de Dieu lui-même. C'est d'une logique implacable, mais ça vaut le coup qu'on s'y arrête. Il va falloir quelqu'un qui vienne d'en haut pour nous parler avec autorité des choses d'en haut. Et c'est vers Jésus qu'il nous faut nous tourner. Deuxième point, la perspective du Fils descendu ici-bas est seule valable. Au verset 11 à 13. J'ai suggéré en introduction que Nicodème était surtout là, dans cet évangile, à cet endroit-là, pour contraster la perspective unique qu'apporte Jésus, la nouveauté de sa vision du monde. Et dans notre passage, on a effectivement deux enseignants face à face. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. On a d'une part Nicodème, l'enseignant d'Israël, c'est le verset 10, tu es l'enseignant d'Israël. Et d'autre part, on a Jésus, regardez le verset 2, un enseignant venu, envoyé par Dieu. Nicodème versus Jésus. Et d'une part, on a Nicodème qui dit « Nous savons » au verset 2. Et regardez le verset 11. Jésus lui répond « En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. » Et c'est délibéré. Nicodème versus Jésus. deux perspectives qui sont contrastées. La première, c'est celle de l'homme, ici-bas, qui sort son grand jeu et qui cherche à faire illusion. C'est versets 1 à 10. Et la deuxième perspective, c'est celle de Dieu lui-même, descendu ici-bas en la personne du Fils. Si les 10 premiers versets de ce chapitre 3 sont censés susciter du désespoir en nous, les versets 11 à 13 doivent peut-être susciter de l'humilité. Se faire remettre à sa place, ça impose d'écouter ensuite chacune des paroles de Jésus et de s'en saisir comme de l'or pur. Il est le Fils de Dieu. Allons-nous recevoir son témoignage? Allons-nous accepter sa vision des choses? J'arrive de 2 semaines de cours sur les bancs d'une faculté. Moi, j'étais l'étudiant, pas le professeur. Alors, s'asseoir, se taire, prendre des notes, écouter sans broncher, c'est pas toujours facile. Accepter que quelqu'un en sache infiniment plus que nous, c'est jamais très facile. Quant à nous, je vous invite à accueillir la perspective du Fils de l'homme. C'est la seule qui vaille en matière d'éternité. L'enseignant Jésus est le seul enseignant qu'il nous faille écouter. Alors, je sais bien qu'on est entouré de beaucoup de voix qui portent haut parfois, des gens qui offrent leur perspective sur le monde, sur la vie, sur l'au-delà, dans les éditoriaux de nos journaux, sur les plateaux télé ou sur Twitter. Toutes sortes de personnes qu'on pourrait vouloir suivre. Mais ça, c'est le café du commerce. Rien de nouveau que des spéculations. Il va nous falloir désespérer de tout cela pour nous tourner vers le Fils. C'est sa perspective qui nous intéresse. Il nous faut écouter attentivement son enseignement. Et Jésus nous prévient qu'il va falloir s'accrocher. Si la nouvelle naissance était déjà un gros morceau à avaler, il y a encore plus qui nous attend. Regardez le verset 12. « Si vous ne croyez pas quand je vous parle de réalité terrestre, comment croirez-vous si je parle des réalités célestes ?» Récapitulons. Premier point, nos perspectives sont tragiquement terre à terre. Deuxième point, la perspective du Fils descendu est seule valable. Et troisième point, éviter la tragédie, avoir le Fils élevé là-haut en perspective. Au verset 14 et 15, nos premières intuitions à propos de Nicodème se confirment. Il est très mal parti. Regardez verset 14. « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Il y a une référence là à un récit qu'on trouve en nombre chapitre 21, n'hésitez pas à y revenir en votre temps. Cette référence, elle annonce la couleur. L'épisode en question, c'est celui où, après moult rébellions, Dieu fait périr son peuple. Son peuple est rebelle et il les livre à des serpents. Il les livre à ce qu'ils méritent. Et dans le même moment, Dieu, dans son amour, demande à Moïse d'ériger un serpent d'airain sur un poteau. Et Dieu concède que quiconque regardera ce serpent aura la vie sauve. Ça paraît assez arbitraire, et dans le contexte des nombres, on se demande un petit peu qu'est-ce que cette histoire vient faire. C'est un épisode curieux jusqu'à ce que la référence que fait Jésus ici nous aide à comprendre pourquoi est-ce que cet épisode a été rapporté. Jésus utilise ce précédent biblique pour nous enseigner quelque chose en ce qui concerne notre réaction par rapport à Jésus. Comme le peuple hébreu du récit, notre humanité est piquée d'un venin mortel. Nous périssons, nous sommes en sursis. Et de la même manière qu'Israël était appelé à lever les yeux, il va nous falloir lever les yeux vers le Christ élevé en croix. La vie, ça passera par là ou ça passera pas du tout. Vous voyez, Nicodème est très mal parti. Il approche Jésus avec beaucoup de pompe, mais finalement, c'est quelqu'un qui périt. Du début à la fin de cet évangile, ceci dit, Nicodème va faire un sacré bout de chemin. On va le retrouver au chapitre 19 de cet évangile, à un moment étonnant. Je vous propose de vous y tourner. C'est le chapitre 19 de l'évangile de Jean. Les versets 38 et 39. Jean 19, verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des chefs juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Il vint donc et enleva le corps de Jésus. Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint aussi. Il apportait un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès. Vous voyez, on le retrouve au moment où le corps de Jésus est descendu de la croix. Au chapitre 3, Nicodème était venu discrètement de nuit. Au chapitre 19, c'est en plein jour, aux côtés de Joseph, qu'il vient faire sa requête. C'est une démarche officielle. Est-ce que vous êtes demandé pourquoi Nicodème voudrait s'afficher à ce moment-là? Il s'affiche publiquement alors que Jésus est mort. Autrement dit, c'est le pire moment. Pourquoi s'afficher au chapitre 19 et risquer sa carrière? Pourquoi ne pas attendre encore 2 jours que Jésus ressuscite? Qu'est-ce qu'il peut y avoir à gagner à s'attacher à un Jésus mort? Il se trouve que Jésus n'est pas mort n'importe comment. C'est élevé en croix qu'il est mort. Et au chapitre 19, Nicodème connaîtra toute la valeur de cette mort-là. Il comprendra la valeur de cette élévation et il comprendra ce que la croix représente pour lui. Un grand bol d'air frais dans un monde qui semble enfermé. Une sortie de secours providentielle. Un radeau de sauvetage auquel s'accrocher désespérément. Un antidote inespéré contre le péril auquel nous faisons tous face, le péril de faire face à la colère de Dieu, livré à soi-même. Vous voyez, notre passage au chapitre 3 contient certainement une suggestion du chemin à prendre pour retrouver cette communion avec Dieu. Et cette suggestion, c'est celle-ci: désespérons de nous-mêmes et levons les yeux vers Jésus en croix. Voilà ce dont Jean veut nous convaincre dans ce passage. Livrés à nous-mêmes, nous n'avons aucune perspective de vie éternelle. On n'en a pas une juste conception, on ne sait même pas qu'est-ce que c'est, et on n'est pas prêt d'en bénéficier. C'est Dieu qui, par son Fils, va devoir faire entrer sa perspective. Et bonne nouvelle, cette perspective-là, celle de Jésus qui vient et qui nous parle, elle nous pointe à la croix, qui est le salut de tout homme. Les grandes applications de ce passage sont sans doute le désespoir, d'une part, et l'humilité, qui vont nous conduire à regarder la croix avec profit. Justement, allons-nous continuer de garder la croix dans notre radar? Avons-nous les yeux qui se ferment de sommeil? Avons-nous les yeux qui divaguent? L'Israélite qui aurait bien compris les enjeux, je peux vous assurer qu'il se serait assuré qu'il n'y a pas d'obstacle à ce que sa vue soit claire et bien dégagée, qu'il ait le poteau du serpent d'airain dans sa bonne visibilité. Et ça doit être pareil pour nous. On n'a rien d'autre à s'accrocher que cette croix du Fils qui a fait irruption ici-bas. Elle nous offre une sortie par le haut d'une situation critique. Alors approchons la croix du Fils avec toute l'humilité et tout le désespoir qui vont bien. Je propose de continuer un peu la réflexion avec quelques questions que vous trouverez au bas de vos feuillets sur les 20 prochaines minutes. Mais avant cela, je vais conclure en priant, si vous voulez bien. Prions. Père Céleste, toi qui as envoyé ton Fils afin que nous croyions qu'il est Christ, Fils de Dieu, nous te prions de bien vouloir susciter en nous du désespoir, afin que ton Fils soit notre seul recours. Prions de bien vouloir susciter en nous de l'humilité, afin que ton Fils soit le seul que nous voudrions écouter. Ô Dieu, tu es celui qui peut nous faire naître d'en haut par ton Esprit. Toi seul le peux, mais tu es aussi celui qui, par amour, veut nous donner la vie. Alors conduis-nous jusqu'à la croix de ton Fils et convainc-nous qu'avoir la croix en perspective, c'est vivre plutôt que périr. Veuille œuvrer puissamment en nous pour nous diriger là où tu veux que nous allions et nous faire écouter ce que tu veux que nous écoutions. Nous prions tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen.